franceinter.com. La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
La résistance protestante en France au XVIIIe.
Moi, Marie Durand, j'étais huguenote, comme l'étaient mes compagnes. Et pour cette cause, pour cette seule cause, toutes nous étions ici, emmurées vives, à Aigues Mortes.
Pendant des années et des années, 38, dans le cas de Marie Durand, notre héroïne du jour, des femmes furent enfermées pour avoir confessé une foi que refusait le roi. Tant plus de mal il me vient, tant plus de Dieu il me souvient, chantait-elle. Dans la pierre de la tour d'Aigues Mortes, Marie Durand avait gravé en langue d'oc un mot devenu devise, résister. Célébré avec ferveur par le protestantisme méridional, cet été en particulier pour le troisième centenaire de sa naissance en Ardèche et dans le Gard notamment, sa gloire demeure néanmoins obscure alors qu'elle fut l'une des premières figures de la liberté de conscience. Notre invité à la marche de l'histoire, haute figure de l'histoire du protestantisme, Philippe Jutard, bonjour.
Bonjour.
Qui a toujours combiné l'étude de l'histoire du protestantisme, notamment méridionale, et l'étude de sa mémoire. Parce que Marie Durand est morte oubliée et elle a été reconstruite.
Tout à fait. Et je crois d'ailleurs qu'en étudiant mémoire et histoire, je suis au cœur du protestantisme français. Un des phénomènes très important de l'identité huguenote française, c'est le rapport à l'histoire par l'intermédiaire d'une mémoire à la fois familiale et collective. Et dans le cas de Marie Durand, c'est extrêmement intéressant, en effet, parce que voilà une personne qui n'a jamais été complètement inconnue, parce qu'il y a toute une série de textes, il y a quelques récits, mais qui, en même temps, comme elle n'était pas assez spectaculaire, pendant longtemps n'a pas été l'image de la résistante protestante.
Alors avant de dévoiler ses mystères, elle est née en 1711, on le sait depuis peu, elle est morte en 1776, elle a été prisonnière 38 ans. Parlons de l'origine de beaucoup des mots du protestantisme, la révocation de l'édit de Nantes. Henri IV avait donné aux protestants des libertés, des places fortes aussi. Louis XIV choisit de prolonger la politique anti-protestante de Louis XIII, et de Richelieu.
J'ai pesé l'intérêt du royaume et j'ai pris ma décision. L'édit de Nantes sera révoqué dès ce mois.
Au mépris de tous les engagements, sire, mais les Huguenots ont été d'une loyauté absolue pendant la Fronde et votre majesté avait réaffirmé solennellement...
Il suffit. Mon aïeul Henri IV aimait les Huguenots, mon père Louis XIII les craignait, moi je ne les aime ni ne les crains. La différence de religion défigure un État. Leurs pasteurs même le disent. Et la liberté d'examen est une chose dangereuse. Ceux qui se révoltent contre l'Église de Dieu peuvent être facilement portés à secouer le joug de leur souverain.
22 octobre 1685, les parlements du royaume enregistrent solennellement la révocation de l'édit de Nantes.
Pourront au surplus les gens de la religion prétendue réformée demeurer dans le royaume, à condition de ne s'assembler sous quelque prétexte de prière ou de culte, sous les peines pour les hommes de galère et confiscation de corps et de biens pour les femmes.
Nous sommes dans un téléfilm de Jean-Marie Coldefis, 71, et en 1685, donc bien avant la naissance de Marie Durand, le protestantisme est éradiqué en tant que corps et les protestants placés sous la toise, ils n'ont que de mauvais choix devant eux.
Oui, alors, est-ce que je peux me permettre de faire une légère contradiction par rapport à ce qui a été dit précédemment? Je pense que Louis XIV n'est pas dans la continuité de Louis XIII, qui, par l'édit de grâce d'Alès et puis de Nîmes, avait accordé, après la fin des places publiques, avait renouvelé la possibilité du culte. Tandis que Louis XIV interdit toute présence, non seulement publique, mais même privée. puisque le dernier article de la révocation, qui en principe accordait un minimum de possibilités de conscience privée, si vous ne faites pas acte de catholicisme, vous êtes complètement soumis à la dureté des contraintes de Louis XIV. Alors, quelles sont les solutions ? Il n'y en a que de mauvaises. Soit, carrément, se soumettre totalement. Soit, jouer le double jeu. Soit, rester, mais en partant au désert, comme le disent les protestants d'alors. Soit, et ça a été un choix assez important, quitter le royaume, environ 200 000 personnes sur les pas tout à fait 800 000 de protestants d'alors.
Les Cévennes ne choisissent guère de s'exiler. Elles entrent dans une longue révolte, deviennent une montagne mystique, d'où jaillissent des prophètes qui sont habités par l'esprit. Ainsi, Abraham Mazel, si bien campé par le grand film de René Alliot, Les Camisards.
Ce soir, au Clos du Viala, Abraham Mazel nous appelle à une assemblée. Allez le dire.
Moi, Abraham Mazel, j'étais âgé de 22 ans quand Dieu me visita de son esprit de prophétie. Il me fit faire le songe d'un jardin où je voyais de grands bœufs noirs et gras qui mangeaient les choux du jardin. Et un homme inconnu me commandait de les chasser. Et j'obéissais à ses ordres. Et je chassais les bœufs du jardin. Et l'esprit du Seigneur vint sur moi et me saisit. Et je ne pus lui résister. Et m'ayant ouvert la bouche, il me fit déclarer que le jardin que j'avais vu était notre église, que les bœufs noirs étaient les prêtres qui la dévoraient et que j'étais appelé pour représenter cette figure. Il me révéla le sens de l'écriture qui parle de la fin des temps et m'apprit que l'église romaine est devenue la Grande Babylone. Anathème à la Grande Babylone !
Oui, mais la République mystique des Cévennes, même si elle dure longtemps, elle devient à son tour une impasse.
Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, cette République des Cévennes, d'une certaine façon, les parents de Marie Durand l'ont bien connu parce que le prophétisme est parti de façon très claire du Dauphiné et puis du Vivarais.
Alors le Vivarais, c'est l'Ardèche.
C'est l'Ardèche.
Le père de Marie Durand a d'ailleurs tâté du prophétisme, mais dans le Vivarais. Là, on passe à la génération d'après. L'expérience de la révolte ne pouvant déboucher, on tente autre chose, la régulation de l'Église du désert.
Absolument, la restauration avec un principe finalement assez moderne, de faire voir son existence dans des grandes assemblées religieuses, mais pacifiques, non violentes, à la différence de la génération précédente. Et alors, de toute façon, ils sont vis-à-vis du pouvoir, ils sont dans la plus mauvaise position parce qu'ils ne font pas peur, puisqu'ils ne résistent pas la plupart du temps, hein. Mais en même temps, comme ils font une manifestation publique de leur culte, ils défient l'État. Ils défient Louis XV, qui, curieusement d'ailleurs, sans état d'âme, avec ses conseillers, a repris exactement la politique de Louis XIV.
Mais alors, ces pasteurs de l'Église du désert restaurée, par exemple Antoine Cour, dans le Vivarais, ils choisissent une stratégie à long terme de transmission.
Absolument.
Transmission par les hommes ordonnés.
Par les anciens. Hommes, les hommes reconnus, aussi par le refus de participer aux actes du culte catholique, ce qui a des conséquences très graves, puisque c'est l'état civil. C'est-à-dire le refus que les enfants soient baptisés à l'église, donc ils deviennent bâtards. Ils sont d'autant plus bâtards qu'ils refusent le mariage. Ils ont en quelque sorte pas d'existence avec ce système-là. C'est-à-dire que en affirmant cela, Antoine Cour et disciples et ses collègues établissent petit à petit une série de personnes qui sont suspendues en l'air. Les mariages n'existent pas, les baptêmes n'existent pas. En principe, ce sont des gens qui n'existent pas.
Alors, c'est le cas de la famille Durand au boucher de Prenles dans l'Ardèche. Le père a été prophète, il est greffier consulaire, oui, mais il est en suspens. Le frère aîné de Marie est pasteur, disciple d'Antoine Cour. Il prend le relais d'Antoine Cour quand Antoine Cour s'en va dans le refuge. Et Marie elle-même, pour se protéger, va se marier avec un monsieur plus âgé qu'elle. Mais c'est un mariage qui n'est pas reconnu par l'Église catholique.
Qui n'est pas reconnu, puisque c'est justement un mariage au désert. Quand vous avez dit que le père greffier Il est dans l'atmosphère prophétique. Dire qu'il est prophète, vous allez un tout petit peu loin. Hein. Mais ceci dit, c'est une famille d'une résistance extraordinaire, puisque Pierre Durand se marie à aussi une famille de résistants. C'est-à-dire qu'ici, il y a tout un cercle de gens qui refusent, hein, refusent la révocation de l'édit de Nantes, en quelque sorte.
Et c'est pour faire pression sur Pierre, le pasteur qui continue son œuvre clandestinement, que la famille est raflée en 1729-1730. Le père et le mari vont se retrouver à Brescou, une forteresse au large d'Agde, dans la mer Méditerranée, et Marie, elle, à Aigues-Mortes, où elle retrouve d'autres femmes huguenotes à la tour de Constance.
Où c'est que tu te crois, drôlesse ? T'es à la tour de Constance, ici ? La tour de Constance, la geôle des protestantes et autres femmes de Parpaillot.
Huguenotes, nous étions, et pour cette cause, réduites à n'être plus que l'ombre de nous-mêmes. Et cependant, au royaume de France, il avait été permis d'être protestant.
Marie ? Marie Durand ?
Avec Marie de la Roche qui m'avait accueillie, cette brave femme m'a appris l'histoire de la tour de Constance depuis le temps où des hommes, nos frères huguenots, y étaient retenus jusqu'à ce jour où seules des femmes étaient encore gardées.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Philippe Jutard, Marie Durand, la prisonnière de la tour de Constance. Philippe Jutard est historien du protestantisme, il a aussi été recteur dans des académies méridionales. C'est quand même un plaisir que de faire traduire de la langue d'oc par un recteur de la République.
La vieille ville d'Aigues-Mortes, la ville du roi Saint-Louis, morne étendue entre ses portes, rêve au grand jour évanoui, elle dort. Mais comme un vieux garde, de son œil rouge grand ouvert, la tour de Constance regarde, regarde la plaine et la mer. Est-ce que je peux faire une petite remarque sur cette complainte ? Ce n'est pas une complainte de l'époque. C'est une complainte qui a été créée à la fin du XIXe siècle, dans les années 80, 1880, par un fait libre protestant en occitan, donc, c'est très intéressant parce qu'en principe, les protestants plutôt font la promotion de la langue française. Et après, traduit par Rubin Sayens, un pasteur baptiste qui a créé une autre grande complainte des protestants, la Cévenol. Et ce que vous avez entendu très certainement, c'est un chant à la Grande Assemblée du Musée du Désert annuel. Donc on est en plein aussi là, cette fois-ci, dans la mémoire et dans la recréation, hein, de Marie Durand.
Marie Durand croit qu'elle va mourir là. Elle est avec des compagnes qui sont comme des spectres, mais on Absolument. Ne meurt jamais. La preuve, un téléfilm avec Emmanuel Riva dans le rôle de Marie Durand témoigne de la manière dont, à l'époque, les prisonnières n'étaient pas complètement abandonnées parce que venaient à leur rescousse les secours de l'international du protestantisme.
J'amène le pain du roi.
Tu m'as l'air bien réjoui, Martin.
Mais après, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une autre chose à vous porter.
D'où cela est-il, Martin ?
De vos amis de Genève. Il est arrivé à profusion. 31 pièces de tissu de drap. Et de belles pièces de refoulé, Marie. De celles qu'on passe deux fois sous le foulon. Je la montrerai tantôt. Là, nous y sommes. Bien, dites-moi, n'êtes-vous pas heureuse ? Je doute que ma famille est en dégât pour moi, si j'étais dans votre cas. Vous avez reçu du lard salé, du riz du Levant, de l'huile d'olive, des paquets de poivre et quelques objets de couture, coton et fil à coudre.
Il n'arrive à jamais que nos frères du refuge nous oublient. Ceux de Suisse, de Hollande, d'Angleterre, des îles ou du Cap de Bonne-Espérance.
Soyons clairs, c'est surtout de l'argent qu'on a porté. C'était plus facile et plus simple, mais c'est exact que très souvent, les gens du refuge s'intéressaient plus à Marie Durand que, elle le dit, à ses propres coreligionnaires du Vivarais.
Alors, quand on va au musée du désert, à l'assemblée de septembre que vous citiez, on voit une longue file de voitures aujourd'hui, des voitures immatriculées dans tous les pays du monde. Le refuge, jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, mais il y avait d'abord la Suisse, l'Angleterre, l'Allemagne, les Provinces-Unies.
Et puis aussi New York. Il y a eu un certain nombre d'immigrants et dont les descendants sont devenus des grands personnages de la République américaine, des pères fondateurs, et d'origine huguenote.
Les femmes écrivaient, Marie Durand était leur porte-parole et on publie régulièrement, il y a une nouvelle édition cette année, aux Nouvelles Presses du Languedoc, sa correspondance avec Rabaud, notamment à Nîmes, qui lui était le porte-parole masculin du protestantisme.
Voilà, c'est en quelque sorte le successeur d'Antoine Court. Et précisément, c'est d'ailleurs la preuve que Marie Durand est certes un petit... Et sa famille est une famille de petits notables. Et une des raisons de son importance, c'est justement, d'une part, qu'elle écrit, donc qu'elle laisse des archives, et ensuite qu'elle a certainement une grande force morale, et que souvent elle est plus jeune que ses collègues prisonnières, ses compatriotes prisonnières, mais elle sait les soutenir, elle sait les aider. Certaines de ces prisonnières ont des enfants qui n'ont été libérés quand ils avaient 15 ou 16 ans. Donc elle aide à les élever. Elle assiste les personnes qui sont gravement malades. Il y a des personnes qui passent leur vie complètement malades, qui ne sont pas libérées. D'autres qui deviennent folles. Alors là, ça peut devenir dangereux. Donc dans ce cas-là, on les fait sortir.
Et ces femmes sont très disparates, plus vieilles parfois que Marie. Certaines ont été des inspirées et des prédicantes. Il y a eu des prophétesses dans le protestantisme.
Absolument.
Certaines sont dérangées.
Tout à fait, oui.
Et certaines peuvent abjurer. Alors,
voilà, c'est ça le drame. C'est ça le drame. Et elles ne sont pas toutes libérées. Donc, vous vous imaginez des femmes qui ont abjuré à côté de femmes qui sont restées fermes.
Qu'est-ce qu'on faisait des enfants ?
Les enfants, ils étaient élevés dans le cadre de la tour de Constance.
Et on ne les confiait pas à des familles catholiques.
Non, oui, très curieusement, ça c'est une sorte de respect. On ne les confiait pas à des familles catholiques. Il ne semble pas, il n'y avait pas énormément d'enfants. Puisque très souvent, les femmes qu'on a arrêtées, on avait arrêté le mari. Et il y avait un ou deux enfants à côté.
Jamais aucune, dit la chanson de Bigot de la fin des années 1880, de trahir le maître ne fit l'affront. Huguenote, il les fit naître. Huguenote, elles mourront. Quelques-unes ont abjuré néanmoins, mais les années ont passé pour les autres. Sur la tour sombre, la porte ne s'ouvrant pas. On ne va pas trahir, on ne va pas adjurer, dit la chanson de Bigot. Les années quand même donc ont passé. Elle le dit aussi très bien, cette chanson. On est maintenant, l'emprisonnement c'était 1930, on est maintenant en 55, 60.
Et oui, et vous vous rendez compte qu'on est en plein siècle des Lumières. L'encyclopédie a commencé à paraître. Il y a les philosophes. On a l'impression que le XVIIIe siècle, c'est un monde de la tolérance et elles sont encore en prison parce que elles sont... Et finalement, les philosophes ne s'y intéressent pas beaucoup. Il faut attendre l'affaire Calas, qui est en 1762, pour voir enfin Voltaire s'intéresser aux protestants.
Au fond, on les garde parce qu'on les a prises.
Absolument, par une sorte de... tout le monde se rend compte que c'est absurde, mais par une sorte de continuité administrative.
Les geôliers, ils ont quand même un peu honte de ce qu'ils font.
Ils ont souvent honte. C'est extrêmement frappant de voir qu'en général, en particulier à partir de ces années-là, les commandants voudraient bien... qu'elle soit libérée. Et si elles sont finalement libérées, c'est en particulier grâce à l'action du dernier commandant qui trouvait ça assez scandaleux.
Mais autour de 1750, il y a eu une dernière tornade répressive dans le Languedoc.
Absolument, autour des années 1752, avec des opérations dites de rebaptisation. Et c'est d'ailleurs l'époque où il y a la dernière immigration. Vers l'Angleterre et certains même vers les colonies américaines. C'est-à-dire qu'il y a un moment de tension très forte. C'est très curieux d'ailleurs ce système du XVIIIe siècle où il y a une sorte d'alternance de périodes où on laisse tout faire et puis brusquement on se rappelle que l'édit de Nantes a été révoqué, donc on arrête pour l'exemple, on envoie aux galères pour l'exemple. Dites-vous bien qu'il y a encore une prisonnière qui arrive en 1754 et une autre en 59.
Et puis, ce n'est pas à l'ancien recteur de l'Académie de Toulouse que j'apprendrai qu'il y a eu des exécutions à Toulouse, que le supplice de la roue a été réservé, vous le disiez, au négociant Calas, qui était accusé d'avoir étranglé son fils parce que celui-ci aurait voulu verser dans le catholicisme. Mais Calas, vous le disiez aussi, a été bientôt réhabilité.
Attendu que le 1er mars 1763, le bureau des cassations au Conseil a jugé la requête des héritiers Calas admissible. Attendu le rapport fait par la commission nommée à cet effet, le Conseil déclare que la veuve et les enfants Calas sont définitivement acquittés. La mémoire du défunt réhabilitée. Ordre étant donné au Parlement de Toulouse de biffer sur ses registres la sentence capitale et de transcrire en marge l'acte de réhabilitation.
Ça a joué l'affaire Calas.
Absolument. Et puis, quand même, il y a tant de textes qui apparaissent. Il y a le traité sur la tolérance. Il y a l'article tolérance dans l'encyclopédie. Donc, dès le milieu des années 60, on sent qu'il faut vraiment régler la question.
Et l'action du prince de Beauvau ?
L'action du prince de Beauvau, mais justement, c'est un très bon exemple. Le prince de Beauvau va visiter lui-même. Un de ses accompagnateurs en fait le récit. Il est extrêmement ému. Il prend sur lui d'en libérer immédiatement deux. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a une altercation très forte entre lui et Saint-Florentin, qui est le ministre en charge du dossier, qui dit « Oh, surtout, ne donnez pas l'impression de donner la tolérance. » Saint-Florentin a passé son temps à dire « Surtout aucune indulgence pour ne pas montrer la tolérance. »
Mais la tolérance, de fait, s'installe à partir des années 1760.
Absolument, il y a une espèce de contradiction absolue. Ça met en cause le problème de l'administration d'Ancien Régime, incapable d'évoluer, en quelque sorte. D'une certaine façon, c'est aussi un peu une explication de la Révolution, vous voyez, indirectement. Une affaire où tout le monde est d'accord pour dire que c'est absurde, que ça n'a plus aucune signification dans les années 60, et on n'arrive pas à les libérer. Par rapport, le prince Beauvau est obligé de s'y reprendre à plusieurs fois. Ce n'est qu'en 68, c'est-à-dire, vous voyez, 6 ans après l'affaire Calas.
Elle retourne, Marie Durand, au Boucher de Prangle, qui est maintenant un musée du Vivarais protestant, une maison que les autorités avaient négligé de détruire. Il y a sur la cheminée une très belle formule, « Loué soit Dieu ».
Oui,
et elle vit pauvrement.
Absolument, alors d'autant plus, c'est ça qui est dramatique, c'est que sa nièce, finalement, elle aussi a abjuré pour des questions de mariage, Et il y a des problèmes de lutte, d'influence entre sa nièce, qu'elle aimait beaucoup, le mari de sa nièce, pour des emprunts qu'elle a faits pour pouvoir vivre. Donc la fin de sa vie est très triste et heureusement, encore une fois, qu'il y a l'aide du refuge et grâce au refuge qu'elle arrive à peu près à régler ses problèmes.
Au début du 19e siècle, le souvenir de Marie Durand est oublié, mais à l'époque romantique, on s'intéresse de nouveau beaucoup aux protestants, par exemple avec le fameux opéra qu'on a repris en juin 2011 à la Monnaie de Bruxelles, Les Huguenots de Meyerbeer, une histoire qui se passe au XVIe siècle. La jeune femme s'est convertie au protestantisme par amour de son jeune amant, et c'est son père lui-même, qui ne la reconnaissant pas au moment de la conjuration des poignards et de la Saint-Barthélemy, va la tuer.
Pour cette cause sainte, j'obéirai sans crainte, j'obéirai sans crainte. sermentez ma foi, mais sermentez ma foi.
Marie Durand, au XIXe siècle, sa grande biographie 1880, 50 ans après les Huguenots de Meyerbeer, c'est une reconstruction du réveil du protestantisme.
Il faut dire que pendant un certain temps, le protestantisme était surtout occupé à se réorganiser après la tourmente du XVIIe et du XVIIIe siècle. Au milieu du 19e, 1851, fondation de la Société d'histoire du protestantisme français, il commence à gérer son passé. Mais pendant le même temps, dans les familles huguenotes, un peu partout, il y avait encore un souvenir et des transmissions. Il y avait des complaintes. Et évidemment, dans les familles vivaroises, le souvenir de Marie Durand n'avait pas complètement disparu, ou plus exactement le souvenir de son frère, Pierre Durand. Et c'est peut-être d'abord par son frère et les complaintes que Marie Durand restait connue, parce que c'était une femme, tout simplement.
Oui, mais le protestantisme français, c'est aussi une construction de femmes. Il y a 15 ou 20% de pasteurs femmes maintenant, et d'avoir une figure féminine de la liberté de conscience, c'est au XXe siècle très avantageux.
C'est au XXe siècle, si vous voulez. Alors, soyons clairs, c'est vers les années 1880-90 que s'est vraiment recréée Marie Durand. Et évidemment, elle s'est appuyée sur une grande institution de mémoire qui fête son centenaire cette année, le Musée du Désert, qui s'est ouvert en 1911. Et à partir de ce Musée du Désert, à partir, en effet, de la mise en valeur des femmes, de la mise en valeur de la non-violence, l'importance de la durée de cet emprisonnement, de ce caractère obscur, tout ceci fait que Marie Durand, qui n'était pas spectaculaire au début du XIXe siècle, le devient, au bon sens du terme, très fortement, dans la deuxième partie du XXe siècle.
Quelle différence avec les saintes catholiques? Il y a un nombre incroyable de religieuses canonisées ou béatifiées pour avoir été décapitées pendant la Révolution. On a encore béatifié une fille de la Charité dans les arènes de Dax il y a peu de jours.
Bah, là, si vous dites ça à un protestant, il va évidemment bondir sur son fauteuil. C'est qu'il ne, les femmes protestantes ne font pas de miracles. C'est là-dessus, si vous voulez, qu'ils vont s'entendre. Mais c'est vrai que, et c'est ça une sorte de paradoxe du protestantisme français, où tout l'honneur revient à Dieu, c'est que aussi pour vivre, il a besoin de figures emblématiques. Alors, ces figures emblématiques, ce furent les camisards, ces figures emblématiques, ce sont les passeurs du désert. Et évidemment, étant donné qu'il a été plus que d'autres, beaucoup plus attentif à la promotion des femmes, de ce point de vue-là, Marie Durand joue un rôle parfait. Et évidemment, elle parle beaucoup à nos consciences.
Festivités cet été, enfin ce sont plutôt des rencontres, dans le cadre du protestantisme austère et sérieux, dans les maisons. Alors au Boucher de Pranles, c'est la maison natale de Marie Durand dans l'Ardèche. Au musée de Mialet, c'est dans le Gard, une maison familiale aussi. Et puis à la maison Mazel, à Saint-Jean-du-Gard, la maison du prophète. Le protestantisme se voit toujours comme une fraternité familiale et démocratique où la voix de Dieu et la voix du peuple se mêlent.
Eh bien écoutez, dans deux jours, au Boucher de Pranles, il va y avoir justement là aussi une conférence sur l'actualité de Marie Durand et suivi, c'est intéressant, International Huguenote de Gospel.
Merci à vous Philippe Joutard qui va bientôt publier un livre sur la révocation de l'édit de Nantes. Grégory Vallon, Rémi Quincé, Jacques Sigal, Franck Olivard qui a préparé cette émission, Frédéric Martin, Clarisse Le Gardien, c'est l'équipe de la Marche de l'Histoire.
C'était la Marche de l'Histoire avec Philippe Joutard au micro de Jean Lebrun, une rediffusion du 24 juin 2011.